Bonjour à toutes et à tous, c'est Yann pour une dernière émission Crème de la Crème cette semaine. Comme c'est le dernier vendredi du mois, eh bien nous retrouverons Champ Libre, un ou une artiste se balade à l'étage 2 de la bibliothèque des Champs Libres, parfois va au quatrième étage, comme ça va arriver, à Mathilde Leja, que l'on retrouve derrière le projet musical Championne et au sein du groupe Henri, Championne et Henri. À voir au Transmusical et Mathilde Leja à entendre dans quelques instants après qu'on aura entendu un extrait de votre disque d'or de la semaine, La Machine à remonter le son, à nouveau en 1996, et que je vous aurais dit que pour terminer, nous retrouverons les morceaux de choix proposés par Ronan Chaplin. On commence directement, en tout cas, Crème de la Crème aujourd'hui avec les Extra, c'est le nom du groupe, ils sont quatre, ils sont parisiens, des garçons et des filles dans ce groupe très pop qui s'inspire aussi bien des années 1960 que 1990. Entendez donc un petit peu de Beach Boys, un petit peu de Beatles et puis aussi un petit peu de Blur de temps en temps dans notamment ce titre Saint-Serge qui figure sur leur album Out of Phase. Quant au Serge en question, je ne sais pas s'il s'agit de Gainsbourg, de Lama ou d'un tout autre Serge. En tout cas, le morceau est très très classe. Bonne émission.
Bad be the word on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it before, but you've never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you. And all the roads that lead us there are winding, and all the lights that light the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. And baby, are you gonna be the one that saves me? And after all, you're my wonderwall. I don't don't believe that anybody feels the way I do about you. And all the roads that lead you there are winding, and all the lights that light the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. And baby, are you gonna be the one that saves me? And after all, you're my wonderwall.
À la toute fin de l'année 1995, sortait un peu comme un single de Noël, le premier titre des Mike Flowers Pop, le morceau Wonderwall qu'on entendait à l'instant. L'album A Groovy Place, lui, est sorti en 1996 et c'est pour ça qu'on l'entend dans cette machine à remonter le son de la semaine. Vous auriez pu aussi entendre pour l'année 1996 le groupe Firewater, les Fun Loving Criminals et leur célèbre Scooby Snacks, ou encore le Something for the Weekend de The Divine Comedy. Mais faute d'émission cette semaine, je ne vous ai pas diffusé tout ce que j'avais sélectionné. On entendait en tout cas l'excellente reprise du Wonderwall par Oasis. Il faudra attendre décembre 1996 pour les voir en concert, les Mike Flowers Pops. Et j'ai vu ce concert d'ailleurs pendant les transmusicales et ça ressemblait à une sorte de concert de Ken et de Barbie, tous bien costumés et tous bien coiffés. Et le décalage était vraiment présent, hein, entre des morceaux du Velvet Underground, d'Oasis ou des Doors, mais version José Feliciano, repris très très easy listening. À suivre, Chant Libre à Mathilde Leja pour la troisième dans Crème de la Crème. Par mois, eh bien c'est un artiste, une artiste qui a passé un petit moment à l'étage 2 de la bibliothèque des Champs Libres et qui nous amène sa moisson en forme de DVD, de CD, de livre. Et aujourd'hui, eh bien c'est la musicienne rennaise Mathilde Leja. Bonjour.
Bonjour Yann.
Que vous connaissez aussi sous le nom de Championne, mm-hmm. et que vous avez déjà croisé peut-être dans d'autres groupes, parce que tu es une musicienne complète, hein, qui ne joue pas que sous ton nom, mais aussi avec d'autres camarades de jeu. Et en l'occurrence, pendant les transmusicales, vous pourrez voir soit Henri, soit Championne, soit les deux, pourquoi pas. Tu joues avec le premier groupe au Parc Expo le 8 décembre, et puis la veille, tu auras joué aux Libertés avec le projet Championne. On en parlera plutôt en fin d'émission tout à l'heure de Championne. On va parler de musique avec toi, mais pas seulement de musique, puisque tu as toujours été baigné dans un univers où les livres, les films et les disques étaient assez proches.
Oui, tout à fait. J'ai toujours été baignée là-dedans. Alors, dans un esprit un peu pluridisciplinaire, mes parents n'ont pas de parcours artistique, mais ils s'intéressent vachement à la culture, au spectacle vivant, donc théâtre, danse, musique, concert. On lisait pas mal de bouquins aussi ensemble, et du coup, c'est un espèce d'amas de tout plein de références qu'on fait naître une sensibilité particulière à la culture et aux arts.
Ouais, donc on peut pas dire que tu sois construite en opposition à cette culture que tu avais autour de toi.
Non, je ne fais pas partie de cette famille d'artistes-là. non, enfant sage,
mais qui sans doute donnera peut-être des sueurs froides à ses parents en voulant faire du théâtre, par exemple.
Eh ben non, parce que c'est mes parents qui faisaient du théâtre en premier lieu, et ça m'a trop donné envie, et donc du coup j'ai sauté le pas assez jeune pour faire la même chose que papa et maman. Donc vraiment rien de subversif ou de de rebelle.
Donc tes parents sont contents de la carrière que tu commences de musicienne en ce moment?
Oui, ils et elles ont eu un peu peur quand je leur ai dit bah non, je quitte mon travail et je fais de la musique. Mais ils sont très contents et contentes pour moi. Ouais. c'était Axel Bauer et le morceau Cargo de nuit. C'est le tout premier morceau de toute ma vie et le tout premier artiste que j'ai vu en concert, je me souviens. C'était au Papillon de Nuit à Saint-Laurent-de-Cuve en Normandie. C'était la première ou deuxième édition du festival, je crois, donc c'était encore assez petit à taille humaine. C'est pourquoi mes parents ont jugé raisonnable de m'emmener en festival à 8 ans. Donc je me souviens d'être arrivée sur le site avec en prenant la main de mon papa et d'arriver sur ce morceau et d'être assez frappée et prise de plein fouet par cette espèce d'énergie collective et fédératrice qui se passait, et j'avais aucune idée que ça existait, ça. Et du coup ça m'a vachement marquée et fascinée. Et tous les ans, on y retournait à ce festival, et tous les ans, j'épluchais la prog et j'attendais ce week-end avec impatience. Je pleurais même la semaine suivante les éditions en réécoutant les les artistes que j'avais vus. Et voilà, c'est mes premières expériences de live où j'ai découvert le concept de concert, et ça m'a choqué, quoi.
Et c'est plus l'ambiance en elle-même que l'artiste en question que tu gardes en mémoire ?
Peut-être pas l'artiste personnellement, mais en tout cas le concept vraiment de transmission et de fédération autour d'une musique, où je trouvais ça fou que... Enfin, j'avais plus ou moins capté que c'était une espèce de chose en apparence unilatérale, où c'est un artiste qui se pose sur scène, sur un plateau, et qui chante en direction d'un public... ce qui sort de lui, vraiment, en tant qu'individu. Mais ce qui m'a frappé, c'est le rebond et la sensibilité et le retour, en fait, d'un public qui écoute attentivement, et cette espèce d'émoi et d'émotion collective qui s'en dégage, et ce rapport à la fois privilégié et presque intime entre chaque individu spectatrice et un artiste, et en même temps, cette expérience super collective et forte, quoi, qui m'a bouleversée hyper tôt, en fait.
Il y a eu Axel Bauer au Festival des Papillons de Nuit. Comment ça se passe, les autres concerts et la découverte d'un univers un peu plus underground, je dirais, parce qu'il a eu un tube en France, en tout cas Axel Bauer avec cette chanson. La musicienne dont tu vas nous parler dans un instant, elle est connue, mais surtout dans un côté plus indé, en fait. Il n'y a pas eu autant de succès pour elle, malencontreusement, que pour Axel Bauer.
Ouais. La découverte, et en tout cas, on va dire le côté... l'initiation, on va dire, à ce que moi j'aime et à la découverte de mes goûts personnels, ça s'est passé du coup par beaucoup d'écoute, par le live effectivement, et ça s'est écrémé petit à petit, on va dire à la préadolescence, ou comme, c'est pas très original, hein, mais comme beaucoup de collégiens, collégiennes, lycéens, lycéennes, j'ai commencé à peut-être me mettre un peu pas en opposition à mes parents à ce moment-là, parce que oui, c'est un peu des rockers aussi, mais en tout cas à découvrir les musiques déjà un peu contestatrices, on peut dire ça, le punk, des choses comme ça, le grunge aussi, qui m'a vachement frappée. Et donc à partir de là, on commence par les grands classiques du genre, hein, les Nirvana, les Ramones, etc. Et puis petit à petit, quand on s'intéresse un peu plus à ça et quand on a une sensibilité un peu accrue à la musique, effectivement on va aller chercher, donc ça passe par aller au champ libre ou en bibliothèque, justement, fouiller les rayons, et puis trouver au départ des artworks, des pochettes qui nous parlent, et puis prendre 10 CD et les écouter. Ça passe par aller à Virgin avec le fameux rayon 3 CD pour 10 balles et voilà. Et puis après c'est des rencontres aussi avec les camarades, des échanges de références, et puis petit à petit ça s'affine, et plus on grandit, plus on peut aller aussi traîner dans les bars, et plus on tombe par hasard sur un concert, et du coup ça nous emmène ailleurs, et du coup on s'intéresse à cette scène-là, et petit à petit on digue, comme ça on creuse, et puis on découvre tout un tas de choses un peu plus inédites et un peu plus Ouais, underground, comme tu dis.
Comme une certaine Pauline Jean Harvey, ouais, que tu nous proposes d'écouter maintenant.
C'est l'une des premières femmes artistes, entre guillemets, totales, c'est-à-dire maîtresse du processus artistique de l'embryon, donc de l'écriture, la composition, aux arrangements, à la production, alors entourée peut-être de producteurs, productrices, etc., de musiciens, musiciennes, mais en tout cas, elle qui vraiment dirige le truc, et avec, sur cet album, en tout cas, quelque chose d'hyper less is more, quoi. Vraiment, où elle est dans un cœur de musique sans trop d'artifice, et j'ai trouvé ça incroyable de transmettre autant de sensations à l'écoute avec juste, par exemple, sur le morceau qu'on va écouter, une guitare et une voix, et en sortant de ce côté un peu guitare-voix, Knocking on Heaven's Door, que j'avais découvert un peu au collège, vraiment là ça a été une grosse claque.
I was born in the desert, I've been down for years, Jesus come closer, I think my time is near. I've traveled over dry earth and floods, hell and high water, to bring you my love. Climbed over mountains, traveled sea, cast down all heaven, cast down all my knees. I've lain with the devil, cursed God above, forsaken heaven, to bring you my love, to bring you my love.
It's come out.
We're actually going to kick off a full musical revolution.
Jonestown and the Dandies have a window of opportunity.
We're going to take over the world.
We're going to show you how to do it, too.
When you sign with a major label, they always tell you things like, we're into careers, not hits. Yet if you don't produce a hit, they don't really give a f*** about your career, you know?
We're gonna get the biggest record deal in history because we're smart.
Right on, brother.
Anton and Courtney. Love-hate relationship, I guess.
I don't like being robbed from.
Oh, gee, you got like a pack of junkies on the road, not eating much, drinking a lot. Is anybody going to get grumpy and irritable and start fighting with each other?
Is that blood on you?
Yeah.
From where?
From people's faces. No, probably not.
I'll kick your head in.
You burn in hell for pretending to be God and not being able to back it up.
Tell him to wear light and come when I call.
He's stalking us now. I will not have him anywhere near me again.
I'll still buy their album, too.
This was epic.
Whoa! Ace gone ballistic.
There's no way to have a revolution if you stay underground.
I am the record company.
Tell my son I love him. I'm never going to see him again, kill me.
The Antons just don't die.
Bombs away!
Quelques monstres sacrés comme ça qu'on accole les uns aux autres dans ouais. Champ Libre à Mathilde Leja aujourd'hui. Mathilde Leja dans le groupe Henri, Mathilde Leja aussi à la tête de Championne et puis Mathilde Leja fan de groupes de rock'n'roll qui parfois n'ont pas eu la même trajectoire alors qu'ils auraient pu exactement être les mêmes superstars mondiales. Non, c'était quoi ça?
C'est le documentaire Dig du coup donc qui suit deux groupes. Groupe meilleurs ennemis, on va dire, donc le Brian Johnstone Massacre ainsi que les Dandy Warhols, qui ont commencé un petit peu sur une même, pas une même proposition esthétique, mais disons une même démarche, un même positionnement, très indé justement, très underground, avec ce côté hyper honorable et hyper artiste qui s'en fiche de l'argent et un truc de positionnement comme ça, et où finalement ils ont eu des trajectoires différentes puisque les Dandy Warhols ont signé chez Capitol. Et voilà, ils sont partis vraiment sur des chemins de diffusion massive et de notoriété vraiment. Et du coup, ils ont récupéré pas mal de sous. Et BJM, qui est resté justement vraiment contre vents et marées, qui a pas cédé à cette tentation-là. Et voilà, qui sont restés à fond sur ce truc, plutôt que de faire une discographie très encadrée et produite, on préférait enregistrer 50 000 albums et vraiment aller sans se brider dans la création et dans ce qu'ils voulaient faire. Est-ce que je trouve que c'est intéressant. En tout cas, moi, ce qui m'a intéressé, c'est ce choix, alors qui est peut-être un petit peu manichéen. Je pense que c'est plus complexe que ça dans la réalité d'un parcours d'artiste et puis en plus d'artiste à nos échelles en tant que groupe émergent. Mais voilà, c'est quand on se professionnalise, c'est des questions qui se posent. Et du coup, c'est vrai que je suis tombée dessus au Champ Libre et je me suis dit, tiens, c'est marrant. Et puis il y a tout cet aspect un petit peu fascinant et drôle de la vie de tournée rock'n'roll aussi, qui est assez savoureux à regarder, faut le dire.
Et puis un point commun entre les Brian Johnstone Massacre et toi.
Ah bon ?
Ils ont joué au Transmusical en 2005.
Ah mais oui, oui. Bah oui, voilà. Ça fait un point commun, ce sera le seul, je pense.
Bon, peut-être qu'il y en aura d'autres, mais en tout cas, voilà. C'est aussi grâce au fait qu'ils n'ont pas signé sur une major qu'ils ont joué au Transmusical,
voilà.
Peut-être.
Ouais. Faut choisir, hein, Transmusical ou Capitol.
Bon, voilà, on laissera de côté les autres groupes qui ont signé sur des majors et qui ont joué au Transmusical avant ou après. Je vais pas rentrer dans cette chronologie-là, mais on continue à parler avec toi de ce qui t'émeut, de ce qui te touche, ce qui te nourrit aussi en tant qu'artiste et en tant que créatrice. Il y a eu cette expérience avec le joli collectif Aïdé Bazouge qui ont pu, à la fois être des employés pour toi,
ouais.
Et aussi te montrer une façon de créer du théâtre sans avoir fait la Comédie Française ou ce genre de choses.
Exactement, c'est vrai que je suis arrivée au théâtre de poche après pas mal d'années à être un peu tiraillée entre le fait d'avoir, entre grosses guillemets, un vrai métier sécurisant et cette envie et ce parcours un peu parallèle de musicienne qui me faisait rêver et que je trouvais assez... impossible à concrétiser. Et du coup, j'ai débarqué au Théâtre de Poche sous la houlette du Joli Collectif, qui est en fait donc qui est à la fois à la direction de ce théâtre-là à l'époque, et ce sont également des artistes, donc comédiens, comédiennes, metteurs et metteuses en scène. Ce qui m'a frappé, c'est vraiment ce truc au final, c'est pas si nébuleux que ça, c'est pas si déraisonnable que ça d'envisager vraiment de l'art comme un métier. Et j'ai trouvé ça super inspirant, et ce qui m'a, et j'ai trouvé là où on imaginait vraiment le métier d'artiste comme simplement vivre de sa musique ou de son théâtre et faire des spectacles ou des concerts et ça s'arrête là, ben non, j'ai découvert qu'il y avait plein d'autres aspects, que ça pouvait passer par de la transmission à travers des ateliers avec différents publics, etc. Et qu'au final, c'était beaucoup plus vaste et qu'il y avait beaucoup plus d'options qui permettaient d'en vivre que ce que j'imaginais. Et du coup, c'était super inspirant, et c'est pour ça que j'ai sélectionné donc ce bouquin. Donc c'est Maurice Maeterlinck, qui c'est une compilation de ses pièces, et dedans il y a Les Aveugles, qui est un des premiers spectacles donc d'un membre du Joli Collectif qui s'appelle Vincent Collet. Et en fait, c'est la première création que j'ai suivie de A à Z en tant que salarié du théâtre, et où je les ai vus aussi, et c'est ça qui me fascinait, tourner en rond pendant plein de temps et explorer plein de directions différentes pour au final affirmer un objet comme ça d'une heure, et je trouvais ça ouf aussi, et voilà, c'était super inspirant.
Le Joli Collectif que vous retrouvez désormais à la direction de l'Air Libre à Saint-Jacques. Toutes les infos sur théâtre-airlibre.fr. Et justement, Vincent Collet joue un de ses nouveaux spectacles.
Tu mottes les mots de la bouche, Yann.
C'est Justice, oui. À voir, notamment ce vendredi 24 novembre à 21h.
Tout à fait.
Si il y a un réalisateur américain qui aime à bricoler son cinéma depuis les tout débuts, c'est bien Wes Anderson. Et peut-être, est-ce que c'est pour ça que tu as choisi de nous parler de la famille Tenenbaum, à cause de ce côté vraiment artisan aussi qu'il peut avoir dans son cinéma ?
Même pas, figure-toi. C'est pas très original ce que j'ai ramené comme filmographie, entre guillemets, mais c'est vrai que ce film-là m'a vraiment marqué. Je me souviens que je l'avais vu en séance scolaire quand j'étais au collège, et j'aime beaucoup passer du rire aux larmes. Et j'ai trouvé que ce film, c'était vraiment ça. Ça parlait à la fois de solitude et en même temps de famille et de relations fortes et de rapports comme ça de force et en même temps d'amour. Et ça m'a vachement touchée. Et voilà, je l'ai revu quelques années plus tard en famille, justement. Et c'était un moment assez beau. Et je sais pas trop quoi dire d'autre dessus. C'est un film, une comédie, un film très drôle et en même temps très 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 mélancolique aussi, j'ai trouvé, et voilà.
Et un film aussi musical, parce qu'ils sont souvent très musicaux, les films d'Anderson.
Ouais, là il y a particulièrement une scène qui m'a marqué et qui me fait à chaque fois énormément d'émotions et qui me touche beaucoup. C'est la scène de la tentative de suicide du coup de l'un des trois enfants de la famille Tenenbaum. Une scène qui est magnifiquement accompagnée d'un morceau d'Eliot Smith, Needle in the Hay.
His arm, a stacked charm around your neck, strung out and thin, calling some friend, trying to cash some check. He's acting dumb, that's what you've come to expect. Needle in the hay, needle in the hay, needle in the hay.
Got a minute?
What are you doing here?
I need a favor. I want to spend some time with you and the children.
Are you crazy?
Well, wait a minute, damn it!
Stop following me!
Well, I want my family back.
Well, you can't have it. I'm sorry for you, but it's too late.
There were three extraordinary children in the Tenenbaum family. Margot Tenenbaum was an acclaimed playwright and won a Pulitzer Prize in the ninth grade.
What'd you think, Dad?
Didn't seem believable to me.
Richie Tenenbaum was a champion tennis player ranked second in the world by age 17. Chaz Tenenbaum was a financial expert and started buying real estate in his early teens.
I said sell it, yeah.
Well, I'm on my way.
They were brilliant. They were famous. They were unlucky enough to be the children of a man named Royal Tenenbaum.
He also stole bonds out of my safety deposit box when I was 14.
Now, for the first time in 22 years, they are all living together under the same roof.
I hear you're dying.
Oh, how long are you going to last?
A month? A year?
I've got 6 weeks to set things right.
I want this family to love me.
Rightly so.
You know who I am? I'm your granddad.
His name is Royal Tenenbaum.
You told us he was already dead.
Let's hit it.
How are you feeling?
I'm having a ball. Scrapping and yelling.
You stay away from my children. Do you understand?
My God, I haven't been in here for years.
Hey! Are you listening to me?
Yes, I am!
Mixing it up.
Are you trying to steal my woman?
I beg your pardon.
I want you out of my house!
Oh, yeah?
Right off!
Loving every minute with this damn crew. Yeah!
What's so funny?
It's these little expressions of yours.
I don't know what you're talking about, but I'll take it as a compliment.
How interesting. How bizarre.
Oh, yeah. 30 years ago, I was knifed in a bazaar in Calcutta. He carried me in the hospital on his back.
Who stabbed you?
He did.
Now on the bus, nearly touching this dirty retreat. Falling out, six and pallid, dead sweat in my teeth. Gonna walk, 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 four more blocks, plus the one in my brain. Down, downstairs, to the man, he's gonna make it all okay. I can't be myself, I can't be myself, man, I don't wanna talk. I'm taking the cure, so I can be quiet, wherever I want. So leave me alone, you oughta be proud that I'm getting good marks.
Vous écoutez toujours Champ Libre à Mathilde Leja dans Crème de la Crème sur Canal B, une fois par mois. Eh bien, une artiste de la région, pour l'instant c'est comme ça, ce ne sera pas forcément toujours comme ça, va se balader à l'étage 2 de la bibliothèque des Champs Libres et nous en rapporte une moisson de documents entre des DVD, comme vous avez pu entendre en instant un extrait de la bande-annonce du film La famille Tenenbaum de Wes Anderson, qu'on avait un peu mélangé avec la chanson Needle in the Hay de Elliott Smith, et puis aussi parfois des CD, parfois des bouquins. Là, tu as pu aussi rapporter un autre DVD de ce film Somewhere, qui est un film de Sofia Coppola qui se passe au château Marmont, un hôtel prestigieux où on peut s'ennuyer, et on peut s'ennuyer seul ou avec sa fille qu'on ne connaît pas bien. Qu'est-ce qui t'a poussé à nous proposer un extrait de la BO de ce film Somewhere?
J'adore et j'ai été bouleversée par les premiers films de Sofia Coppola. Là, pour le coup, autant sur Wes Anderson, j'ai un peu saturé, je pense, comme beaucoup de personnes, sur cet univers visuel aussi si affirmé, et voilà.
Un peu étouffant.
Un peu étouffant, ouais. Et autant sur Sofia Coppola, sur les premiers films, il y a un espèce de truc de la sobriété, je trouve, et de l'effacement de la metteuse en scène, enfin de la réalisatrice. Mais du coup, une manière de filmer assez touchante malgré tout, et assez, assez humble, où ça laisse toute la place aux acteurs, aux actrices, aux paysages, etc. Et Somewhere, c'est pour le coup comme un peu Lost in Translation, par exemple, des films qui sont pas forcément très bavards, mais où tout se joue dans l'émotion. Et c'est vrai que ce truc de toucher au thème de la solitude et de l'aspect un peu déboussolé qu'on peut avoir dans certaines périodes de sa vie, c'est des thèmes qui me bouleversent. Et voilà, c'est pour ça que je me souviens d'une scène particulièrement où là, c'était un coup de maître ou de maîtresse, d'ailleurs, on peut dire, en l'occurrence. Une scène où c'est simplement donc cet acteur, l'un des personnages principaux, qui, pour son futur film, je crois que c'est un film d'action, se fait mouler, du coup, le visage avec de l'argile ou un truc comme ça pour, j'en sais rien, un truc de cascade ou peu importe. Et en fait, la scène dure super longtemps, est silencieuse et c'est juste un dézoom sur ça, et là il n'y a pas meilleure chose de la caser dans ce film et avec ce contexte de propos sur la solitude où on comprend que c'est un film là-dessus, et vraiment de ça quoi, où il est, ça fourmille autour de lui, il est dans l'effervescence d'un tournage et d'une production qui se monte. Et en même temps, il est tellement seul là-dedans, et c'est aussi la question de la notoriété, de la célébrité, qui peuvent un peu retourner le cerveau et tout ça, qui moi ça m'intéresse, ou en tout cas j'éprouve une forme d'empathie pour ces personnes-là, même si j'ai pas forcément de sympathie pour les personnes riches.
Et pourtant une sympathie quand même pour les Strokes,
ouais.
Qui sont riches et talentueux.
Ouais, c'est vrai que ce que j'adore dans le cinéma aussi, c'est, enfin, ce que je trouve admirable, c'est justement, mais là j'enfonce une porte ouverte, cette espèce de création artistique à 360 degrés où par plein de disciplines différentes, tu les ajoutes en couches les unes aux autres et ça crée un espèce de propos de fou, quoi. Sofia Coppola, trop forte pour choisir ses BO et bien s'entourer. 10 decisions shape your life. You be aware of 5 about 7 ways to go to school. Either you noticed or left out 7 ways to get ahead. I said, I can see me in your eyes. You said, I can see you in my pants. That's not just friendship, that's romance too. You like music we can dance to. Sit me down, shut me up, I'll come. Time when we all fail, some people take it pretty well, some take it all out on themselves, some they just take it out on friends. Oh, everybody plays the game, and if you don't, you're called insane. Don't, it's not safe no more. Triché avec Clarisse, donc qui travaille au champ libre. Je lui ai dit ouais, mais je peux pas aller chercher un peu à l'étage 4, donc l'étage des bouquins. Et donc j'y suis passée et donc je lui ai dit, mais ça fait un peu pompeux de choisir de la poésie. Et en même temps, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. J'en lis pas tous les 4 matins, hein. Je suis pas une experte, mais en tout cas là, c'est un poème qui m'avait un peu retourné.
Et bah, tu vas nous en lire un petit peu alors.
Ok, il est assez court, ça s'appelle L'angoisse. Je suis un peu névrosée dans la vie, il faut le savoir, donc du coup, il m'a un peu parlé, ce poème. donc je sais pas si je vais bien lire et j'arrête de prendre des précautions, je me lance. Nature, rien de toi ne m'émeut, ni les champs nourriciers, ni l'écho vermeil des pastorales siciliennes, ni les pompes aurorales, ni la solennité dolente des couchants. Je ris de l'art, je ris de l'homme aussi, des champs, des vers, des temples grecs et des tours en spirale qu'étirent dans le ciel vide les cathédrales, et je vois du même œil les bons et les méchants. Je ne crois pas en Dieu, j'abjure et je renie toute pensée, et quant à la vieille ironie, l'amour, je voudrais bien qu'on ne m'en parle plus. Las de vivre, ayant peur de mourir, pareil aux briques perdues jouaient du flux et du reflux. Mon âme pour d'affreux naufrages appareil.
C'était un extrait
Bam,
donc,
mic drop.
De Paul Verlaine, Fête galante, c'est ça ou
Fête
c'est
galante, le... romance sans parole.
On peut y déceler peut-être quelques sources d'inspiration pour ton écriture ou pas ?
Clairement, je l'ai écrit et réécrit dans mon petit carnet d'écriture. Ce qui m'a un peu frappé à la lecture de celui-ci et d'autres, bah, c'est ce côté un peu romantique, mélancolique et puis noir, quoi. Et puis cette espèce d'aller-retour entre la vie et cette pulsion dépressive et morbide qui me parle beaucoup quand il dit « lasse de vivre, ayant peur de mourir », cette espèce de gymnastique mentale me touche au plus haut point et... Alors, je l'ai fait beaucoup moins bien que lui, mais d'ailleurs, je reprends un peu cette idée dans un de mes morceaux.
Voyez directement cette musique choisie par Mathilde Lejeune, notre invitée dans Champs Libres aujourd'hui, pour que vous repensiez à ce poème que tu nous lisais de Paul Verlaine tout à l'heure. Là, ça vient d'un film de Ari Aster, son chef-d'œuvre peut-être, son deuxième film en tout cas, avant Beau is Afraid, après Hérédité, c'était Midsommar. Tu avais envie de nous conseiller une petite fête païenne suédoise ?
Oui, j'adore. Je m'y rends régulièrement. Non. Moi, j'aime pas spécialement les films d'horreur. Dans le cinéma d'Ari Aster, ce que je trouve fou, c'est comment est-ce que tu pars de l'horreur d'un drame parfaitement réaliste et possible, la mort de proches, le deuil, etc. Et comment est-ce que tu l'ouvres à un film de genre, en fait, et d'une manière hyper singulière. Enfin, c'est un film, Midsommar, pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, qui se déroule entièrement de jour dans une clairière avec un grand soleil, etc. Et pourtant, ça fait froid dans le dos. Et c'est des allers-retours entre justement ce côté païen et à moitié abstrait, parce qu'on est vraiment dans les yeux et la tête de l'héroïne qui découvre ça et qui sait pas trop pourquoi elle débarque là-dedans. Donc ce côté un peu terrifiant. Et en même temps, cet aspect et cette psychologie aussi qu'on voit se développer au fur et à mesure face à l'horreur. Et dans l'horreur, elle trouve quand même une forme d'émancipation. Alors on ne sait pas trop, et moi c'est ça que j'aime bien aussi, les films qui me rendent confuse un peu. Je saurais pas dire si c'est une forme d'émancipation positive, j'ai un peu peur du mot, mais bon, positive dans l'horreur on va dire. Ou bien une forme d'émancipation provoquée par les personnes qui l'entourent et par l'emprise qu'a cette sorte de secte, en fait, sur elle. Il y a une scène magnifique, justement, qui est à double tranchant justement, et je me rends compte avec la lecture, enfin ce dont je parlais avec Verlaine aussi, que l'ambivalence en général, ça m'intéresse et ça me touche en tout cas. Cette scène où elle pleure et elle hurle de douleur parce qu'elle revit un petit peu son deuil, en tout cas elle le sort de manière publique en hurlant, et où elle est entourée de femmes qui hurlent avec elle et qui lui tiennent la main comme pour soulager ou en tout cas prendre un petit peu de sa douleur, et c'est des personnes qui lui ont quand même foutu la misère pendant 1h45 avant, et pourtant il y a cette forme de communauté et de sororité qui se crée, et du coup ça m'a complètement retourné le cerveau. Et ne parlons pas de l'aspect esthétique du film, on pourrait en parler des heures, mais voilà, ça m'a passionnée et j'ai regardé 50 000 analyses derrière sans pour autant avoir trouvé les réponses que je cherchais.
Vous avez donc, si vous avez écouté Mathilde Lejar à l'instant, de toute urgence, envie de voir ce film Midsommar de Ari Aster. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de le voir absolument. Et si vous l'avez déjà vu, revoyez-le, parce qu'il
ça
est
me donne envie
vraiment fantastique.
De le revoir.
On arrive à la fin de cette discussion avec Mathilde Lejar, championne. Oui, c'est ton nom de projet musical. Le premier ou le plus important, je ne sais pas, mais en tout cas celui que tu représentes en ton nom et qui jouera, tu joueras le 7 décembre aux Libertés avec Championne, mais tu joueras aussi le lendemain en tant que musicienne, instrumentiste avec le groupe Henri, cette fois-ci au Parc Expo. Donc tu es à la fois les Brian Johnstown Massacre et les Dandy Warhols, finalement.
Waouh, stylé comme boucle
boucler. C'est-à-dire que tu es à la fois, celle qu'on va regarder toutes et tous aux Libertés, et c'est ton projet, et puis celle qu'on verra un peu moins peut-être, parce que tu seras avec d'autres musiciens au Parc Expo le lendemain. Drôle de position quand même.
Ouais, ça va être sport et ascenseur émotionnel, mais c'est intéressant de tester différentes choses, différentes esthétiques. Enfin, Henri est championne musicalement, c'est quand même deux choses vraiment différentes. Et de se positionner à différents endroits. Championne, c'est le projet le plus important que j'ai fait, puisque c'est mon projet solo. Donc ça me tient particulièrement à cœur. Donc là, il y a plein de casquettes différentes, tandis que sur Henri, je suis interprète à la basse. Et déjà, c'est beaucoup de plaisir et de charge mentale en moins, on va dire. Et puis, c'est aussi des modes de jeu, de l'interconnaissance avec des musiciens avec qui j'aurais pas forcément joué instinctivement ou intuitivement autrement, qui font que c'est hyper enrichissant et qu'il y a des ponts et des allers-retours et des passerelles entre ces différents projets qui se créent.
Et championne, un projet musical que tu as conçu, il y a quelques invités musiciens qui t'accompagnent, ingénieurs du son aussi. On voit la présence de Joris Saïdani, par exemple, de Birds in Row, qui a son studio au
près
Mans,
de Nantes, à Rezé.
À Nantes aussi. Mm. On voit aussi un musicien qui a pu jouer dans Gwendoline, dans Teenage Bed aussi. Tu es bien entouré quand même, aussi bien avec championne dans le projet musical que dans le début de vie, puisque tu es aussi entouré par des structures.
Ouais, et ben du coup sur Joris, effectivement ça a été une rencontre assez déterminante où il est arrivé très tôt dans le projet. J'avais quelques démos et je suis allée en studio chez lui, et puis là c'est vraiment la découverte en fait du son de championne, en passant par plein d'explorations, la découverte du fait que c'était possible d'aller aussi loin dans la création, l'arrangement et la production de morceaux. Ça m'a vachement donné confiance en moi, c'est une super personne et voilà. Et puis là, il nous accompagne aussi, sur la création live, sur tout ce qui est son, donc c'est super. Mika, bah, on a fait nos premières armes avec Mika et Pierre, d'ailleurs, le duo de Les Deux Affreux de Gwendo, là, qui, donc sur Caval Blanche, qui est l'un de mes anciens groupes. Et effectivement, ça a été une oreille, un regard extérieur hyper précieux. Il m'a aidé sur quelques arrangements de mes toutes premières démos. Et puis là, sur Bill Bokeh, le morceau qu'on écoutera tout à l'heure, il est venu enregistrer des guitares parce que c'est moi qui les ai composées. Mais Joris m'a dit le tempo est pas assez soutenu. Allez, on augmente de je sais plus combien de points et j'arrivais plus à les jouer. Du coup, Mika est venu à la rescousse. Mais du coup, c'est ça, c'est un écosystème et une famille qui se forme autour du projet et c'est super touchant et ça fait du bien d'avoir des personnes aussi bienveillantes pour l'accompagner. Il y a aussi Ludo et Tiffen de mon label Parapente qui sont des oreilles attentives et bienveillantes. Voilà, c'est super.
Et puis des paroles de Bill Bokeh qui sont assez assez sibyllines comme ça quand on les écoute pas attentivement. Puis finalement, on est un peu dans... C'est quoi ces relations finalement entre les êtres ?
Ah oui, oui, oui. Bah oui, Bill Bokeh, c'est assez... Oui, oui. Je sais pas trop quoi en dire, c'est pas facile.
Chacun interprétera.
Ouais, c'est assez, assez concret quand même quand on écoute...
Eh bien, écoutez donc Bill Bokeh. Il y aura d'autres morceaux, évidemment. Tu joueras pas que celui-ci aux Libertés.
Non, et puis j'en profite pour dire que je sortirai un deuxième titre le 30 novembre prochain. Voilà.
Quelques rendez-vous avec Championne, eh bien, ce vendredi 24 novembre. Si vous êtes dans quelques heures du côté de la Roche-sur-Yon, vous pourrez voir Championne. Ça sera à vous d'être un champion ou une championne pour y aller rapidement, sans faire de dégâts. Et puis sinon, bien sûr, le Liberté le 7 décembre. Et puis entre les deux, donc un nouveau titre pour Championne. Merci Mathilde. On te retrouve sur tous les réseaux respectables.
Oui, Instagram et Facebook principalement. Exclusivement en fait.
Et puis vous aurez la playlist hein, et puis le résumé de cette balade à l'étage 2 de la bibliothèque des Champs Libres sur canalb.fr. C'était donc Champs Libres à Mathilde Lejean. Merci.
Merci à toi Yann.
Qu'est-ce que je fous là ?
Pour finir Crème de la Crème aujourd'hui, c'est Ronan qui nous propose ses morceaux de choix. Dans un instant, eh bien, la sélection de Catel. Nous on se retrouve lundi pour une nouvelle semaine de Crème de la Crème. Passez un bon week-end sur Canal B ou ailleurs. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.
Morceau de
bravoure.
Cachez le morceau. recoller les morceaux.
Les morceaux, le morceau.
Manger le morceau.
Morceau. Morceau. Le morceau.
Emporter le morceau.
Morceau.
Choisi.
Morceau.
Morceau choisi.
Morceau de choix.
De choix.
De choix.
Morceau de choix.
J'ai choisi « Le monde s'est dédoublé » de Clara Isée. Cette chanson, ce sont des amis qui me l'ont fait entendre. Dès que je l'ai écoutée, j'ai été happée par son intensité et sa capacité à retranscrire en peu de mots ce qui nous arrive quand nous sommes confrontés à un deuil, quelle que soit la forme qu'il puisse prendre.
Ce matin, il est arrivé une chose bien étrange. Le monde s'est dédoublé.
Chaque parole peut être reprise à notre propre compte. Ce matin, il est arrivé une chose bien étrange. Il y a un avant, un après, et combien de fois devons-nous l'éprouver au cours de notre vie ?
J'ai pris peur, j'ai crié, que quelqu'un me vienne.
Ce qui me paraît infiniment doux et précieux dans cette chanson, c'est l'évocation de l'ami qui surgit et qui, par son affection, son attention, parvient à apporter un peu de consolation.
Cueilli en ami qui m'a pris dans ses bras. Et m'a murmuré tout bas. Regarde derrière les nuages, il y a toujours le ciel bleu azur qui lui vient toujours en ami te rappeler tout bas que la joie est toujours à deux pas. Il m'a dit prends patience, mon ami prends patience, vers un nouveau rivage. Ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses phares, t'éclaire de ses phares.
Les lieux communs, les métaphores usuelles, me semblent ici sublimés par la puissance et la beauté de la mélodie, le rythme qui s'accélère, un cœur battant en dépit du chagrin, parce que, en effet, la connaissance est présente, grâce à la douceur de l'amitié qui ouvre la voie, de la joie, toujours à deux pas.
Vos corps que je percevais hier encore, dans leur exactitude, ont perdu leur densité.
Et j'aime aussi le rapport au temps qui s'y raconte. En dépit de la faille décisive qui s'est formée, subsiste l'idée d'une fidélité à soi et au monde d'avant qui nous éclaire de ses phares. Ainsi, la lumière continue à résider dans le territoire qui a été détruit.
Regarde derrière les nuages, il y a toujours le ciel bleu azur qui lui vient toujours en ami te rappeler tout bas que la joie est toujours à deux pas. Il m'a dit prends patience, mon ami prends patience, vers un nouveau rivage, ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses phares. Regarde en dessous de la nuit, il y a toujours le jour qui pose ses lumières sur un coin de la terre, te rappelant tout bas que la joie est toujours à deux pas. Je te dis prends patience.
Cette chanson nous invite à affronter avec dignité les épreuves les plus douloureuses. Elle nous prend la main, nous conduit vers une communion fraternelle. Elle dit notre souffrance partagée et nous guide vers l'accalmie, comme vers la puissance vitale du combat.
Viens toujours en ami, te rappeler tout bas, que la joie est toujours à deux pas. Il m'a dit prends patience, mon ami prends patience, vers un nouveau rivage. Ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses phares, t'éclaire de ses phares.